Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Nous voilà déjà vendredi et voilà, j'ai un message à vous transmettre de la part du Seigneur et je vais commencer par lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Je vous invite à prendre vos bibles si vous les avez sous la main. Si vous êtes dans la voiture, il vaut mieux pas que vous lisiez en conduisant. Matthieu chapitre 13. Verset 36 et à 39, je lis. Voyons. Alors il en renvoya la foule et entra dans la maison. C'est Jésus, hein, il renvoie la foule et il entre dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, donc ils se trouvent juste entre eux, entre intimes. Et ils lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ, parce qu'ils sont très inquiets, ils ne comprennent pas. Jésus n'a pas donné d'explication, il a dit à la foule la parabole de l'ivraie et du champ, mais il leur a pas donné l'explication. Les disciples, ils veulent savoir, donc quand ils sont fermés dans la maison entre eux, Jésus leur parle et répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, donc c'est lui. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ce que vous entendez à côté, c'est mon chien qui aboie. Il doit y avoir quelqu'un qui arrive, ou alors un chat qui se promène, je ne sais pas. Seigneur, je te prie de bénir ces paroles, ces quelques mots que je vais donner, afin que chacun et chacune puisse trouver vraiment un soulagement dans son cœur s'il en a besoin, dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Alors, on avait toujours entendu enseigner que sur terre, il y a deux semences. L'ivraie et le bon grain. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jésus qui le dit. On ne peut pas aller contre ce qu'il a dit. J'ai déjà beaucoup enseigné sur ces choses, cherché. Vous allez voir, c'est vrai, il y a l'ivraie et le bon grain. Donc, il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Les fils du diable ne deviendront jamais des fils de Dieu. Nous étions des fils de Dieu perdus et nous agissions comme les fils du diable, mais nous sommes venus à la lumière et maintenant nous avons été déclarés justes par notre Père céleste et nous avons maintenant à progresser et à marcher dans le Saint-Esprit. Mais l'ivraie ne peut être que religieuse, elle ne peut pas devenir enfant de Dieu, c'est pas possible, elle est fille du diable, l'ivraie sont les fils du diable, ils ne peuvent pas changer, on peut pas, c'est pas possible. On est ce qu'on est, puis c'est tout. Si vous êtes du bon grain, ben vous êtes fils de Dieu, et donc c'est à des fils de Dieu que je vais m'adresser ce soir. C'est ce que Jésus dit clairement dans ce passage que nous venons de lire. Si vous êtes un fils de Dieu, vous avez été prédestiné au salut de votre âme dès avant la fondation du monde. Non seulement votre esprit retournera à Dieu qui l'a donné, mais aussi votre corps sera relevé d'entre les morts pour revêtir l'incorruptibilité et vous ne passerez pas en jugement, parce que comme c'est écrit dans Jean chapitre 3 verset 17, ceux qui ont cru, n'est-ce pas, eh bien, ils ne viennent pas en jugement. Dieu ne perdra aucun de ses enfants, aucun. Ceux qui seront perdus iront à la destruction, ce qu'on appelle l'enfer, mais enfin, le mot enfer n'est pas dans la Bible, il y a d'autres mots, voilà. Ce sont les fils du diable, c'est livré, livré. Mais ces gens-là ne veulent pas aller au ciel, ces gens-là ne veulent pas aller vers Dieu, ils adorent le diable, ou ils ne veulent rien savoir au sujet des choses, ni de Dieu, ni du diable, enfin, de toute façon, ils veulent rien du Seigneur, ils n'aiment pas du tout les choses de Dieu. Et ils meurent dans cet état-là, et puis voilà, c'est comme ça. C'est leur nature, c'est comme si vous demandiez à, je sais pas moi, à une chèvre de tomber amoureux d'un placoplâtre. C'est pas possible, hein? C'est contre nature. Donc ces gens-là n'aiment pas Dieu par nature. Donc ils ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup trop de faux enseignements, et je me sens pressé par le Saint-Esprit pour enseigner la vérité, pour dire les choses clairement. Ce soir, je vais prendre donc un texte sacré dont se servent les bricoleurs de Dieu. Vous savez, tous ces autoproclamés, maintenant, on en voit partout. Il n'y en a pas que chez les musulmans, il y en a aussi beaucoup chez les chrétiens. des autoproclamés, des bricoleurs de Dieu, des gens qui sont reconnus par personne, sauf par eux-mêmes et par une bande de gens qui ont un QI de 3. Je veux donc utiliser le verset qu'ils adorent, ces bricoleurs de Dieu, pour dire aux enfants de Dieu qu'ils ne pourront pas aller en enfer, même si. Ah, voilà. Et pour cela, pour illustrer ce que j'ai à dire, je vais prendre Matthieu chapitre 6, ce verset formidable dont se servent ces bricoleurs de Dieu, et on en connaît, hein, je pense que vous en connaissez, moi j'en connais aussi un paquet. Matthieu chapitre 6, verset 14-15. C'est Jésus qui parle, donc ce qu'il dit c'est vrai. Il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors il n'est pas en train de dire, il faut faire attention, hein, il n'est pas en train de dire, si vous pardonnez aux hommes les offenses qu'ils vous ont faites, non. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, eh bien votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'est-à-dire à tous les hommes, vous pardonnez à tout le monde, Mussolini, Hitler, tout le monde, si vous ne pardonnez pas non plus, eh bien, je ne vous pardonnerai pas, voilà. Mais il n'est pas dit, je vous enverrai en enfer. Jésus ne dit pas ça. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Est-ce écrit ? Oui, c'est écrit. Mais est-ce qu'il est écrit, vous irez en enfer ? Non. Il dit juste, je ne vous pardonnerai pas. Alors, je pose une question. Par quoi sommes-nous sauvés? Ou par qui sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Voilà le qui et voilà le quoi. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu sans les œuvres. Vous êtes d'accord? On ne peut pas rajouter à ce que Jésus a fait. Si nous sommes sauvés par nos bonnes œuvres, ça signifie que nous méritons le salut. C'est comme un ouvrier, n'est-ce pas, qui mérite son salaire. Un ouvrier, ben voilà, il a bossé, ben voilà, il mérite son salaire, c'est tout à fait normal, c'est pas un cadeau que son patron lui fait. Il mérite son salaire, puisqu'il a bossé. Mais le salut, c'est pas un salaire, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on est sauvé. Maintenant, si vous ne me croyez pas, je vous lis ça dans la Bible, dans Romains chapitre 4, et versets 4 et 5. C'est l'apôtre Paul qui parle à celui qui fait une œuvre, c'est-à-dire un travail, quelque chose, le salaire est imputé, est donné, compté, non comme une grâce, mais comme une chose due. Votre patron ne vous fait pas la grâce de vous donner un salaire. Il donne le salaire que vous méritez, c'est normal. Et au verset 5, et à celui qui ne fait point d'œuvre, qui fait rien, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, sa foi lui est comptée, sa foi est mise sur son compte. Celui qui croit en celui, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus-Christ, en celui qui justifie l'impie. Alors, par qui sommes-nous sauvés ? Par Dieu, par sa grâce, et non pas par les œuvres. Si nous sommes sauvés par les bonnes œuvres que nous faisons, ça signifie que nous méritons comme un salaire, comme une récompense, n'est-ce pas ? Le salut, le salut n'est pas une récompense, ça n'est pas un salaire. C'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait. On va lire, on a lu ça dans Romains 4-5, maintenant, celui qui ne fait rien, hein, l'apôtre Paul il va jusqu'au bout, hein, celui qui fait rien du tout, ça n'existe pas les gens qui font rien. Les gens qui ne font rien, aucune bonne œuvre, ça n'existe pas, on a tous fait plus ou moins, ou quand même, au moins une bonne œuvre dans notre vie. Eh bien, même celui qui n'en aurait fait aucune, une telle personne, ça n'existe pas, mais bien, si une personne arrive à ne faire même aucune bonne œuvre, si elle a foi, c'est-à-dire si elle croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée, comptée à justice, mise sur son compte, et il est sauvé, même s'il fait rien de bien. Est-ce écrit, oui ou non ? Le croyez-vous ? Est-ce que vous croyez ce qui est écrit ? Est-ce que vous croyez ce que je vous raconte ? Est-ce que vous l'avez déjà lu dans la Bible ? Si oui, pourquoi est-ce que vous dites que si vous ne faites pas assez de bonnes œuvres, pas assez de bien, vous irez en enfer? Comment osez-vous dire, oui, non, mais moi je ne sais pas, je ne peux pas avoir l'assurance du salut, c'est de l'orgueil, de dire, je suis sûr d'être sauvé. C'est vous qui êtes orgueilleux en pensant que vous allez pouvoir vous sauver vous-même alors que Dieu dit que c'est impossible à l'homme. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il n'y a que Jésus qui est le sauveur. Et pourquoi croyez-vous que si vous ne pardonnez pas les offenses d'une personne, vous irez en enfer? Pourquoi vous croyez? Si vous êtes sauvé, si vous croyez en celui qui justifie l'impie, vous êtes sauvé. Même si vous ne pardonnez pas une personne qui vous a offensé ou qui a commis quelque chose d'offensant envers vous ou envers d'autres. Bon, allez, on va relire le texte de Matthieu au chapitre 6, 14, pour que vous rappeliez bien que ce que je vous dis, c'est pas moi qui vous le dis, mais c'est quand même bien, bel et bien dans les Écritures. 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà, on l'a relu. Si vous êtes un fils du Père Céleste, il se peut que vous péchiez d'une manière ou d'une autre, et ça, ça va abîmer votre relation avec votre père. C'est un petit peu comme, pourquoi ? C'est un peu comme la relation entre un père et un fils ou une fille. Supposons que vous êtes papa. Votre fils vous claque la porte au nez, il refuse de se soumettre à vous, il s'enfuit de votre maison, il fait des tas de bêtises, il se chicane avec un autre de vos fils. Est-ce que vous allez cesser d'être son père pour ça? Non. Vous serez quand même son père. Et il sera quand même votre fils. Par contre, la relation sera un peu abîmée. Souvenez-vous du fils prodigue. Le fils a mal agi, ok. Et sa relation avec son père a été rompue. Mais est-ce qu'il a cessé d'être le fils de son père? Non. Et quand il est revenu, ben tout s'est arrangé. Oui, mais vous allez me dire, oui, mais le fils prodigue, il est revenu, c'est pourquoi l'histoire finit bien, mais s'il était parvenu, écoutez bien. Écoutez bien. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et vous irez donc en enfer. C'est ça qui est écrit. Prenons donc le cas extrême, puisqu'il n'est pas écrit si vous pardonnez aux hommes les offenses qu'ils vous font, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses. Alors prenons le cas de quelqu'un qui est très offensant, un gros méchant, bien gras. Si vous ne pardonnez pas Hitler, il ne vous a pas offensé directement, du moins j'espère, en tout cas, il a peut-être certainement offensé des gens de votre famille, je ne sais pas, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, c'est-à-dire à monsieur Hitler, n'est-ce pas, eh bien Dieu ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est ça que ça veut dire. Et si vous ne le faites pas, si vous ne pardonnez pas ce monsieur-là, eh bien, Dieu ne vous pardonnera pas et vous irez en enfer. Vous trouvez ça normal, vous? C'est ça votre bonne nouvelle? C'est ça votre évangile? Non, ça c'est de la religion stupide. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, Hitler compris, leurs offenses, votre relation avec Dieu n'est pas bonne. Pardonnez ceux qui vous ont offensé ou ceux qui ont offensé le monde entier, comme Hitler. Ça ne signifie pas que vous allez devoir les aimer au point d'avoir, n'est-ce pas, la photo d'Hitler sur votre table de nuit ou dans votre salle à manger. Ça ne signifie pas que ceux qui vous ont offensé ou qui ont offensé votre fille ou votre famille, eh bien, vous allez les recevoir à votre table et que vous allez leur confier vos enfants et que vous allez leur donner votre confiance. Non! Ça ne signifie pas ça. Ça signifie que vous devez leur pardonner. C'est tout. Alors, c'est quoi pardonner? Pardonner, c'est ne pas entretenir de rancœur. Pardonner, c'est ne pas avoir de rancune. Pardonner, c'est ne pas désirer de vengeance. Pardonner, c'est ne pas souhaiter du mal à l'offenseur. Pardonner, c'est prier pour celui pas pour Hitler, il est mort, c'est fini pour lui. On ne prie pas pour les morts, c'est une abomination de prier pour les morts. Mais c'est prier pour celui qui vous a offensé ou qui a offensé quelqu'un. Si vous entretenez de l'amertume en vous, mes frères et sœurs, eh bien, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en vous. La relation est rompue. Le Père Céleste ne peut pas vous pardonner. La relation est souillée à cause de vos mauvais sentiments et de vos désirs de vengeance et de votre rancœur et tout ça. Mais ça n'est pas écrit que vous irez en enfer pour autant. C'est pas parce que la relation est souillée et rompue que vous irez en enfer pour autant. Maintenant, si vous changez et que vous vous repentez d'avoir entretenu de mauvais sentiments, ben alors la relation avec Dieu, le Père Céleste, sera rétablie, parce que de toute façon, il est votre Père, il vous aime. Et si vous mourrez sans avoir pardonné aux hommes et aux femmes leurs offenses, vous mourrez, mais vous payerez. Ah bon ? Mais bien sûr. On va lire Matthieu, ça c'est des choses que les bricoleurs de Dieu ne prêchent pas. Matthieu 5, 23, 26. Matthieu 5, 23, 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, c'est bien croyant qui présente son offrande à l'autel, hein, c'est pas le païen du coin. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran, c'est-à-dire le dernier centime. Vous payerez jusqu'au dernier cadran. Tu ne sortiras pas de là tant que la situation ne sera pas réglée, tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier. Tout se paye. On va lire un autre texte pour que vous soyez bien au clair. Luc 12, 47. Ça aussi, c'est un texte que les bricoleurs de Dieu ne prêchent pas. Luc 12, 47. Voilà ce qu'il est dit là. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, c'est que tu pardonnes tous ceux qui commettent des choses offensantes. Le serviteur de Dieu qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien fait, n'a rien préparé, n'a pas agi selon la volonté de son maître, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups, demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Alors voilà ce qui va se passer. Tu meurs, t'as pas pardonné, t'as pas fait la volonté de Dieu, tu vas pas aller en enfer, puisque tu es sauvé. Hein, je vous ai bien dit au départ, je parle à des gens sauvés, à des gens qui reconnaissent que Jésus est leur sauveur, qui croient que Jésus est le seul sauveur, le seul moyen que nous avons d'être sauvés, c'est la grâce. Mais par contre, t'as voulu à quelqu'un qui t'a offensé, bon, alors ben, tu auras des coups. Ces coups, ça sera pour toi. Tu les recevras du mauvais côté du séjour des morts, dans un lieu de tourment. Tu prendras les coups. Alors, il y en a qui en prendront beaucoup, il y en a qui en prendront moins, ça dépendra tout, n'est-ce pas, ce qu'ils auront fait, ce qu'ils n'auront pas fait, ce qu'ils auront reçu, ce qu'ils n'auront pas reçu sur terre. Mais ça n'est pas écrit qu'ils iront en enfer. C'est pas écrit que tu iras en enfer. Quand tu meurs, tu iras dans un endroit où tu prendras des coups parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, mais tu n'iras pas en enfer pour autant. Aucun enfant de Dieu n'ira en enfer. Par contre, si tu ne pardonnes pas un homme offensant et que tu es encore en vie sur terre, Dieu te châtiera, ta relation avec lui sera difficile parce qu'il va te châtier. Alors, Hébreux chapitre, c'est je crois 12, ouais c'est ça, 12, versets 5 à 6, écoutez bien. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, vous êtes des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Ah, par contre, si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, c'est que vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. J'aime bien la version d'Alfred Cudi, il dit « Si Dieu vous châtie pas, c'est que vous êtes des bâtards. » Si tu ne pardonnes pas un homme offensant, et que tu es encore en vie sur la terre, tu vas passer des sales moments, parce que Dieu va te corriger jusqu'à ce que tu comprennes. Mais ça ne signifie pas que tu vas aller en enfer. Dieu ne te pardonne pas ce que tu as fait de mal, mais ça ne veut pas dire que tu iras en enfer. Il ne te pardonne pas et il est comme un père normal qui te fout la fessée. Tu pèches en ne pardonnant pas leurs offenses aux hommes, aux femmes et à tout le monde. Alors, un, sur terre, Dieu ne te pardonnera pas avant que tu aies compris la leçon. Et si tu ne comprends pas autrement que en recevant une bonne fessée, la fessée, tu vas l'avoir. Et deux, après la mort, si tu ne t'es pas repenti d'avoir pas bien marché, eh bien après la mort, tu seras châtié d'un grand nombre de coups, tel que c'est écrit dans Luc 12, je crois, 12, 47. Voilà, c'est à toi de voir maintenant. Mais tu n'iras pas en enfer parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Combien de chrétiens ont une relation tumultueuse avec Dieu parce que Dieu doit les corriger? Beaucoup sont dans l'échec sans arrêt parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et ils pensent même que c'est le diable qui les attaque. C'est pas le diable qui vous attaque, c'est Dieu qui est en train de vous châtier pour que vous compreniez la leçon, mais vous ne comprenez pas la leçon. Vous continuez dans votre bêtise. C'est souvent Dieu qui ne vous pardonne pas un truc et qui vous met la fessée par amour. C'est souvent ça qui vous arrive. Est-ce que vous comprenez mieux ce passage? J'espère que vous comprenez mieux ce passage, que Dieu vous bénisse en tout cas. Vous voyez, si vous êtes sauvé de l'enfer parce que vous pardonnez des gens offensants, eh bien, vous êtes sauvé par une œuvre. Vous êtes sauvé à cause d'un mérite, parce que vous avez pardonné, alors vous êtes sauvé. Ça ne tient pas la route. La Bible ne se contredit pas. Elle ne peut pas dire d'un côté qu'on est sauvé par grâce sans les œuvres, et d'un autre côté qu'on est sauvé par la grâce et les œuvres. Elle ne peut pas dire ça. Elle ne dit pas ça. Ça ne tient pas la route. Ça contredit tous les textes qui disent que vous êtes sauvé par pure grâce sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, maintenant je vais m'arrêter. Ça fait peut-être beaucoup. Je vais m'arrêter. Est-ce que vous allez me croire? Est-ce que vous allez accorder vos violons sur la parole de Dieu? Si vous me croyez, c'est que vous croyez en celui qui justifie les impies. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci de m'avoir permis d'être clair et net afin que chacun puisse bien se positionner dans sa foi en ta grâce qui est suffisante. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir.